Bonjour à toutes et tous, il fait beau sur toute la France. Vous pouvez vérifier, le soleil nous inonde. Partant de là, je vous imagine avec une marge d'erreur frisant le 99%, je vous imagine à l'ombre d'un poirier, allongé avec votre partenaire de galipette sur une nappe à carreaux bleus, vertes et rouges du genre kilt, en train de lire un magazine féminin. Vous êtes à la page des recettes de cuisine et quelque chose cloche, quelque chose ne tourne pas rond. Ce qu'il vous faut, vous dites-vous, c'est un beau roman. Mais il y a du choix, vous dites-vous encore, vous dans la rapidité de penser, en est pas de plus d'un. Il y a trop de choix, c'est embarrassant, c'est l'embarras du choix. Et avouons-le, c'est pénible. Heureusement, vous avez amené ce petit poste de radio et là, semblant sortir de nulle part, ma voix va vous dégager de ce pétrin existentiel. Enfin, des conseils littéraires qui vous sont prodigués sérieusement sans toutefois se prendre au sérieux. Enfance, adolescence et âge adulte, nous allons, orpailler notre invité afin que celui-ci nous livre ses meilleurs livres. Cette phrase au lyrisme inattendu vous annonce qu'Abdella Taïa, écrivain marocain de langue française, est notre invité et qu'à la bienveillance de son regard, si, je ne doute pas une seconde qu'il se joigne à moi pour vous souhaiter la bienvenue dans ce chassé-croisé number 5.
France Inter, chassé-croisé, Mathias de Gaël.
Bonjour Abdella Taïa.
Bonjour.
Comment ça va?
Ça va bien, il y a le soleil.
Ouais, comme vous dites. Alors, comme le veut le principe qui architecture la bâtisse chassée-croisée, nous allons revenir sur les lectures qui fondèrent votre enfance, votre adolescence et vos moments d'adulte. Mais ce que j'aimerais, pour commencer, c'est évoquer un temps votre nouveau roman, Celui qui est digne d'être aimé. Alors, c'est le titre du roman, c'est pas votre roman qui est digne d'être aimé, quoique. Il est paru aux éditions du Seuil. D'abord, il s'agit d'un roman épistolaire qui, à rebours, nous ramène d'août 2015 à mai 90 à travers quatre lettres qui sont principalement adressées à Ahmed. Quatre lettres qui mêlent Malika, la mère tyrannique, et des amants. Il y a Vincent, Emmanuel et Labib, car Ahmed est homosexuel. Et vous me pardonnerez le syllogisme, Abdella Taïa. Ahmed est homosexuel. Ahmed est votre double, donc vous êtes homosexuel.
Ah, totalement, j'assume.
J'insiste parce que si je négligeais cette partie de votre identité, il y aurait quelque chose qui vous manquerait, n'est-ce pas?
Absolument.
Pourquoi?
Mais parce que nous vivons toujours dans un monde très homophobe, où le monde agresse, violente, viole les personnes homosexuelles ou bien transgenres, et même en Occident d'ailleurs. Et donc pour moi, il est très important, même si les autres croient que j'en rajoute trop dans l'expression de mon homosexualité, il est très important d'affirmer, de réaffirmer cette identité.
Quels sont les arguments des gens qui pensent que vous en faites trop? Pourquoi disent-ils ça?
Il faudra peut-être leur poser la question, parce qu'ils me disent, en tout cas moi, « Oh là là, vous avez encore écrit un roman ou quelque chose où il est question d'homosexualité, quand est-ce que vous allez passer à autre chose ?» Et j'ai envie de leur dire, mais vous ne vous rendez pas compte des regards homophobes qu'on me jette chaque jour, dans le métro, dans les rues de Paris et ailleurs dans le monde, et que la vie des homosexuels est loin d'être respectée par tout le monde.
Nous allons parler de tout ça. La première lettre dans votre roman, c'est celle adressée à feu votre mère Malika et à ceux qui croient que le ressentiment disparaît quand la personne meurt. Vous nous dites que non. L'aigreur demeure envers ce tyran domestique au féminin qui tient son mari par la grève du sexe. Abdella Taïa, cette aversion, elle est très complexe. C'est Malika qui commande. 7 ans après son décès, c'est toujours elle qui semble aux commandes. Elle qui, à votre sujet, dites-vous, a enfanté un être ni homme ni femme. Vous dites, j'ouvre les guillemets, « Je suis toi, maman, sans avoir tout ce que tu possédais comme pouvoir. »
C'est ce qu'on appelle le pouvoir des morts. Les gens, quand ils sont encore en vie, on ne fait pas totalement attention à ce qu'ils sont, à ce qu'ils disent et comment ils nous influencent. Et une fois qu'ils ne sont pas là, une fois qu'on n'a plus le pouvoir de vraiment leur dire « Allez au diable », qu'on se rend compte à quel point ils continuent de nous hanter, à quel point ils continuent de nous diriger et surtout à quel point on va les entendre jusqu'à la fin de notre propre vie. Vous savez, c'est comme dans le film de Hitchcock, Rebecca.
Voilà, il est dur.
Cette femme est morte et elle hante tout le film, on ne la verra jamais. On verra ses habits. On verra.
Comme des reliques.
Comme
qui
des reliques.
Ouais, c'est vrai.
Voilà, c'est exactement ça.
Allez, je vais vous lire. Je suis à la page 29 de celui qui est digne d'être aimé. Chaque matin, je me renie. J'ouvre les yeux. Je me rappelle que je suis homosexuel. J'ai beau avoir fait, tout un travail pour m'accepter, me laver des insultes. J'ai beau me répéter depuis des années que j'ai le droit de vivre libre, vivre digne, vivre. Rien n'y fait. Cette peau homosexuelle que le monde m'a imposée est plus forte que moi, plus dure, plus tenace. Cette peau, c'est ma vérité au-delà de moi. Je ne l'accepte pas complètement, mais je sais que je n'existe que par elle, malgré mes multiples tentatives d'évasion, d'émancipation. Tu es morte, Malika. Je suis homosexuel, plus homosexuel que jamais maintenant. Votre sexualité, est-ce que c'est une impasse? Est-ce que c'est un autre enfermement, Abdelataya?
En tout cas, celle d'Ahmed, au moment où il écrit cette lettre, la première dans le livre, il est totalement dans l'impasse. Et au lieu de fermer les yeux, de dire « ça ira mieux demain » ou bien dans un an, il préfère confronter ce passé, confronter le fantôme de cette mère et surtout confronter cette colère immense qu'il a en lui depuis que cette femme est morte. On croit souvent que la mort libère, la mort d'un parent, et certainement la mort de la mère libère. Or, en tout cas, si je fais un petit examen de ma petite vie, je me rends compte que depuis la mort de ma propre mère, rien ne va.
Waouh.
Sincèrement, je sais pas comment faire pour accepter une telle vérité.
Mais vous avez pris perpète, hein.
Je sais, c'est perpète parce qu'elle est vraiment morte, mais je ne cesse de penser à elle, je ne cesse de la voir à travers mes gestes, à travers ce que je mange, à travers mon bordel, à travers mes fréquentations, à travers ma façon même de parler et d'exagérer certaines choses, de manipuler les gens et tout. Je me rends compte à quel point je suis un programme, je suis programmé par elle et je me demande où est la liberté là-dedans et surtout comment j'ai fait pour m'émanciper et croire qu'à un moment donné, je me suis émancipé d'elle.
Mais qu'est-ce qu'on doit comprendre? Que survivre, c'est avoir le cœur dur, impénétrable?
Le monde dans lequel nous vivons...
Non, je ne parle pas du monde, je parle de vous,
de
votre
moi,
cœur.
Ah oui, bien sûr. Ah, bien sûr. Il est évident que si on se laisse trop attendrir, on sera piétiné très vite et que le monde, en tout cas tel que je le vis, nous demande trop de choses tous les jours. Et que on n'a pas trop souvent le temps juste d'être dans la vérité. Donc, on est toujours à côté de la vérité.
À côté, oui. Voilà pour la préface de ce Chassé-Croisé épisode 5. Nous pouvons entrer dans le vif du sujet, si toutefois ce n'était pas le cas.
France Inter, Chassé-Croisé. Chapitre 1.
Abdelataya, vous êtes issu d'un milieu très modeste. J'imagine que donc les livres n'ont pas, avec les guillemets qui s'imposent, envahi votre enfance. Je sais aussi que c'est en lisant non pas un livre, mais un magazine de cinéma que vous êtes tombé amoureux d'Isabelle Adjani. Quelle était la place de l'écrit dans votre famille?
Alors la place de l'écrit existe à travers un mot que ma mère nous disait toujours, qui est « qara », ce qui veut dire « étudie » et ça veut dire aussi « lit ». Mais pour elle, elle voulait dire « faites bien des études, il n'y a que cela qui va vous permettre de vous en sortir, de trouver de l'argent, d'obtenir de l'argent, des postes, et de sortir, et de me sortir, elle, donc ma mère, de la pauvreté ». Je dois quand même dire que mon père travaillait comme un chaouche dans la bibliothèque générale de Rabat, que mes sœurs aînées et mon frère aîné avaient fait des études supérieures, mais vu le monde dans lequel j'ai voulu, qui était quand même très très pauvre, dans la ville de Salé à côté de Rabat, dans le quartier de Haïsselem, c'est comme si le sentiment que je garde, que le livre n'était pas destiné à des gens comme nous, comme moi, et que l'idée même de prendre un livre et de l'ouvrir et de se mettre à le lire était incongrue. C'est comme s'il fallait avoir la bonne attitude, la bonne posture, la bonne façon de lire et après avoir lu le livre, de savoir comment en parler aux autres et d'opprimer les autres avec l'attitude qu'on a et de ce qu'on a lu dans le livre. Donc franchement, je viens d'un monde, en tout cas, où les livres, c'est vraiment pas la démocratie. Les livres, c'est pour les bourgeois marocains qui ont étudié à Paris et dans les grandes écoles parisiennes et qui sont rentrés à Paris pour nous opprimer un peu plus avec leur intelligence si française, et alors qu'ils sont marocains et qu'ils sont loin de nous. Et pour justement nous opprimer un peu plus, ils lisent. Et nous, on reste dans la non-lecture.
Mais alors, est-ce que vous êtes issu de cette culture, qui est une belle culture quand même, qu'on appelle l'oralité?
Alors, je ne me rendais pas compte, évidemment, à l'époque, parce que c'était la pauvreté, mais je me rends compte avec le temps, avec l'âge.
Et la distance.
La distance, j'ai 43 ans, que heureusement, il y avait une forme de mise en scène qui se passait dans la vie quotidienne de ces gens, les pauvres au Maroc, moi au milieu d'eux, et ils avaient une façon quand même de raconter les histoires, de raconter la même histoire, de raconter le réel, le quotidien, les histoires de vengeance, les histoires de famille, les histoires d'adultère, les histoires des voisines, de la sorcellerie, les saints et tout ça, qui font partie de la vie quotidienne de plein de pauvres et qui peuvent paraître pour certains comme étant du folklore. Or, c'est la vie de tous les gens et ce n'est certainement pas du folklore pour moi. Et au milieu de toute cette vie, il y avait cette femme qui est la sœur de mon père, qui s'appelle Masouda, qui est morte dans les années 90 et que moi j'ai connue alors qu'elle était déjà très 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 vieille. Et je me souviens que mon premier contact avec cette femme, c'est qu'elle, quand elle venait chez nous, elle s'est jamais mariée, elle a pas eu d'enfant, elle a eu une forme de elle a été une femme libre, prostituée, tout un tas de trucs. Mais son autre frère, le frère aîné de mon père, l'a gardée chez elle, chez eux, chez lui, et de temps en temps, elle venait chez nous. Et là, elle nous racontait d'histoires, et surtout, elle commençait toujours par nous prendre nos mains et de se rapprocher le plus possible de nos peaux. Et je garde comme
vous voulez dire qu'il y avait un côté tactile qui précédait la narration.
Non, la narration venait dans la nuit.
D'accord.
Mais le jour, quand elle arrivait, je pense parce qu'elle était très vieille. Moi, quand je l'ai connue, elle avait déjà 75 ans. Et donc, elle voyait en nous, j'imagine, une forme de... Enfin, la jeunesse, la peau jeune, la peau... Mmh. Voilà, quelque chose qu'elle n'a plus. Et donc, nous, on était 9 enfants. Donc, elle passait de l'un à l'autre. Elle nous rapprochait d'elle. C'est à peine si elle ne léchait pas notre peau. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, je comprends en fait ce qu'elle faisait. À l'époque, ça nous faisait rire avec mes sœurs et mon petit frère. On trouvait, ah là, qu'est-ce qu'elle est folle. Mais aujourd'hui, je comprends. C'est un peu comme dans certains tableaux, le vieux et la jeunesse, le vieux et le jeune. Il y a une forme de... Elle voyait en nous ce qu'elle n'est plus.
Elle vous datait ?
Je pense qu'elle... Je sais pas moi, comme un vampire, elle prenait quelque chose de nous.
Ah, moi je pensais au carbone 14, une façon de dater les gens, hein, de les placer hiérarchiquement, de les ordonner, de les classifier quelque part.
Non, je pense qu'elle prenait quelque chose de nous, une énergie qu'il y avait en nous qu'elle n'avait pas. Et puis surtout, j'ai adoré, ça m'émeut même de me souvenir de tout ce qu'elle me faisait et des endroits où elle me touchait.
Bien sûr. Alors, je ne vous le cache pas, mais ça ne vous étonnera pas non plus. Vous êtes le premier invité de cette émission, Chassé Croisé, qui finalement n'a pas été bercé par les livres pendant son enfance. Vous nous dites, vous, que c'est l'oralité, selon le principe universel des histoires qu'on lit avant de s'endormir. Messaouda, que vous venez d'évoquer, piqué dans l'arabe, dans le berbère, pour vous raconter ses histoires, les mêmes histoires réinventées à chaque fois et dites avec une voix différente. Dire et redire une origine, c'est déjà votre principe d'écriture, Abdellah.
Absolument. En fait, si pour moi elle est à ce point-là importante, cette femme, Masouda, c'est parce que je me rends compte que j'écris avec sa voix dans les oreilles et que tout ce que j'ai écrit, c'est des voix qui parlent, qui prennent l'espace littéraire, l'espace de l'écriture pour imposer leur version de l'histoire, leur version de ce qui s'est passé et que les autres soient d'accord ou pas, ce n'est pas important. Cette femme, donc Masouda, donc elle venait chez nous et la nuit, on était tous les uns à côté des autres comme des sardines dans une boîte de sardines et dans la nuit, voilà, donc elle se mettait à parler. Et ce qui était fascinant, c'est que il y avait une liberté inouïe dans sa façon de dire les choses, de nommer les choses, y compris pour dire des choses qui paraissent trop transgressives.
Vous parlez du pur et de l'impur.
Ah, à vrai dire, elle était totalement dans l'impur. Elle était certainement pas pure, cette femme. Et Dieu merci, elle ne l'était pas, parce qu'elle racontait des histoires sexuelles, elle racontait des histoires de vengeance. Elle nous racontait, par exemple, comment elle a marié mon père. Elle l'a fait marier et divorcer au moins 10 fois avant que mon père ne tombe sur ma mère. Je veux dire, il y avait une forme de promiscuité, proximité entre elle et mon père qui était extrêmement dangereuse et extrêmement trouble. Et tout ça passait dans sa voix, dans cette façon de raconter les histoires dans la nuit et de revenir encore et encore sur la même histoire avec des variations. Franchement, cette voix me hante aujourd'hui encore.
Elle a du coffre, je ne parle pas de Messaouda, de ceux qui renferment un cœur gros comme ça et une palette de décibels. Elle chante pour nous convaincre que l'amour est une réalité manifeste et tangible. Voici le flux et le reflux d'Isia, un ressac beau comme la vague.
Le reflet des rayons te caresse.
Inter, Chasse et croisée, chapitre 2.
Il est 16h et 23, 24 minutes maintenant, peu importe, c'est l'été. Les vacances pour pas mal d'entre vous, du moins je vous le souhaite. Nous sommes avec Abdellah Taïa et nous parlons aussi de son dernier roman, celui qui est digne d'être aimé. Mais maintenant, nous allons, après avoir vu l'oralité de son enfance, nous allons aborder la lecture proprement dite, celle de son adolescence. Est-ce que vous vous souvenez du titre du premier livre lu à l'école, Abdallah ?
À l'école
Oui, à l'école justement, pour sortir de la famille.
Non, je me souviens pas. En revanche, le premier livre que je suis moi-même allé acheter pour pour savoir ce que c'est un livre et pourquoi, il y a des mots là-dedans pour construire une histoire, je m'en souviens très bien.
Et vous pouvez nous le citer ?
Oui, alors en arabe, ça s'appelle Bidaya wa Nihaya. C'est un roman de Naguib Mahfouz. Ça a été traduit en français sous le titre « Vienne la nuit ».
Alors, c'est un livre qui nous amène au Caire, dans les années 30, veille de la Seconde Guerre mondiale. Une famille est sans ressources, à la mort du père et sombre dans l'indigence, cette famille. La mère, figure omniprésente et vivante, incarnation de l'Égypte éternelle, et ses quatre enfants surmontent les épreuves, mais c'est faire fi de la malédiction qui s'acharne sur cette famille. À travers les destins individuels de ces personnages, Naguib Mahfouz nous entraîne dans une profonde méditation sur le secret de la vie et des êtres, le libre arbitre et la fatalité, le bien et le mal. Dites-moi, pour un premier livre, c'est ardu, non ?
À vrai dire, je ne l'ai pas lu du tout comme ça, comme vous venez de le résumer. Je l'ai lu, ce qui m'a poussé à le lire, c'est que d'abord, j'avais vu le film à la télévision marocaine quand j'étais, je devais avoir 11 ans. Et je me souviens très bien que au début, sur le générique, il y avait écrit, adapté d'un roman de Naguib Mahfouz. Et lui-même, Naguib Mahfouz, avait participé à l'adaptation et à l'écriture des dialogues. Et donc, je me suis promis que, poussé par une curiosité, parce que le film est vraiment un chef-d'œuvre, c'est quelque chose qui m'avait totalement frappé parce que j'y ai trouvé beaucoup l'écho et les images de la vie autour de moi, c'est-à-dire comment vivent les pauvres, comment survivent les pauvres et comment la pauvreté finalement finit par les pervertir eux aussi. C'est-à-dire que ce que doit faire le pouvoir, l'oppression de pouvoir, se retrouve à l'intérieur de cette cellule, pauvre, et comment chacun opprime l'autre, comment chacun tue l'autre, et à la fin, ça finit dans le noir absolu. Donc je voulais, parce que je ne pouvais pas revoir le film, donc il fallait attendre, je ne sais pas, une hypothétique rediffusion, je me suis dit, je peux acheter le livre, et donc je l'ai acheté, et je l'ai lu, avec les images des films et surtout des acteurs, parce qu'il y avait dedans des acteurs très célèbres dans le monde arabe, notamment un qui est très connu ici, c'est Omar Sharif. Mais il y a aussi Amina Rezq, Farid Chaouki, Sana Jamil et tout un tas d'autres. Et j'ai lu le livre, je suis entré dans le monde de Naguib Mahfouz, poussé par l'émotion que j'ai ressentie devant les images du film.
Bien sûr. Alors moi, j'ai fait mes petites recherches, parce que c'est vrai que je n'ai pas lu « Vienne la nuit » de Naguib Mahfouz, mais ce roman pose une question que l'on peut aussi extraire de votre œuvre, de vos romans, Abdellah Taïa. Comment rester digne ? C'est un petit peu ce que vous venez d'évoquer. Et puis une question encore plus grave, qui doit se sacrifier ?
Alors, ce qui m'a d'abord ému dans le film est et qui m'a aimé encore plus quand j'ai lu le livre, c'est de voir à quel point j'avais l'impression que c'était la vie de ma famille, les images propres à ce que nous vivions, étaient projetées dans cet écran en noir et blanc que nous avions à l'époque de télévision. Et je me disais, mais c'est pas possible, comment ils ont fait ? Comment ils ont compris, comment ils ont su pour toutes ces choses qui se passaient en nous et par quels moyens ils ont réussi à les transférer, les transposer et y mettre tout ça dans des images. Donc c'était ça le choc, à la fois de trouver ces images de nous-mêmes et la fascination devant les images du cinéma. Et parce que je ne pouvais pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, voir le film comme je voulais, je me suis dit, je vais retrouver ces images encore plus dans le livre. Et effectivement, dans le livre, il y a les questions au-delà de la pauvreté, les questions de sacrifice, et les questions de... Oui, il y a toujours quelqu'un, ou plusieurs personnes qui doivent donner de leur corps, de leur âme.
Dans le livre, expier.
Bah dans le livre, c'est les femmes, comme d'habitude. Bah voilà. Comme d'habitude, malheureusement, il y a la mère et il y a surtout la sœur qui est au départ une couturière. Et c'est comme ça ne suffit pas l'argent qu'elle ramène à la maison en tant que couturière. À un moment donné, elle va se retrouver à faire le trottoir, à se prostituer pour que ses frères terminent leurs études supérieures et que eux, les hommes, deviennent et de grands postes plus tard. Ouais. Et il y a une scène impitoyable dans le film, c'est à la fin quand le frère joué justement par Omar Sharif devient un policier. À un moment donné, il y a la police qui ramène des prostituées ramassées sur le trottoir et parmi elles, il y a sa sœur. Il a, au lieu de l'aider à s'en sortir, il l'emmène vers un pont et lui dit « tu sautes ». C'est une des scènes les plus célèbres dans l'histoire du cinéma arabe qui est restée très 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 forte dans les mémoires parce qu'au départ, la sœur essaye de le supplier, de croire, de se rappeler tout ce qu'elle a fait pour lui et pour les autres frères et lui ne veut rien entendre. Et ça se termine par quelque chose de tragique. En fait, ce que j'ai aimé au-delà de tout ça, c'est le sens tragique de la vie, le sens tragique de ce qui peut exister entre les êtres et comment, pour se libérer, on pousse l'autre à mourir.
Moi, dès que j'entends quelqu'un parler d'un pont et puis du grand saut dans le vide, je pense à Camus et bien sûr à la chute. Tina Riwen est sur France Inter, tellement beau, tellement chaud, tellement sucré que je ne puis résister au plaisir de vous annoncer que nous allons jeter nos oreilles en pâture à ce monstre de délicatesse. Tina Riwen est en playlist sur France Inter avec Asaft. Bon après-midi.
Shut the mash up, cut 11
C'est la fin de Asaft, la chanson de Tinari Owen. Vous pouvez remonter le thermostat.
Chassé croisé sur France Inter. Chapitre 3.
C'était histoire de dire que c'est vrai que ça amène beaucoup d'énergie, cette chanson, et de la chaleur. Troisième chapitre sur les quatre que compte l'émission. Il est temps pour nous, cher Abdel Attaya, de découvrir quelles sont vos lectures actuelles, vos lectures d'adultes.
Je suis avec vous toujours.
Et vous nous dites quelles sont ces lectures d'adultes? Si vous les avez encore en tête.
Si. Et donc, en fait, j'ai choisi le roman français qui m'a le plus... à la fois impressionné, transporté et changé quelque chose de immédiat dans ma vie. Après avoir lu ce livre, j'ai commencé à l'imiter tout de suite.
Alors on va voir un peu l'influence que peut avoir ce livre sur votre écriture et même sur votre personnalité. Pourquoi pas ? Ce sont les lettres portugaises. Et on va peut-être régler un problème, une problématique qui est qui a écrit lettres portugaises. Alors, faut savoir d'abord que ce sont 5 lettres d'une religieuse portugaise à un officier français. Religieuse portugaise à un officier français. Et on a longtemps pensé qu'il s'agissait d'un roman épistolaire dû à Gabriel de Guillerague. Et puis ces lettres furent attribuées à une religieuse franciscaine du XVIIe siècle du couvent de Beja au Portugal. Pour argumenter la polémique, Philippe Soler a prétendu, je le cite, qu'aucun homme et certainement pas le pâle Guillerague n'a pu aller aussi loin dans la description de la folie amoureuse féminine.
J'approuve.
Alors c'est assez étonnant parce que c'est la folie amoureuse féminine et épistolaire de cette nonne. Vous êtes homosexuel, vous n'êtes pas portugais. Qu'est-ce qui fait que finalement ça vous a plu et ça vous a transporté à ce point ces lettres portugaises?
Oui, parce que je crois aux forces invisibles, je crois à la sorcellerie, je crois à tout ce qui...
Et vous croyez à l'amour?
Je crois à l'amour et je crois à ces gestes qui peuvent paraître fous et qu'on fait, même ici en Occident, et qui ne sauvent certains jours. Il n'y a pas que la vérité rationnelle, il n'y a pas que les preuves... matériel. Il y a aussi autre chose. Certainement, l'amour, il a pour nous transformer, nous donner des ailes. Il a pour nous amener à croire qu'il y a autre chose au-delà de la terre et qu'il y a autre chose au-delà de l'oppression, de la dictature au Maroc et dans le monde arabe. Qu'il y a autre chose au-delà de ces lois qui interdisent à l'homosexuel petit opprimé que j'étais. Il peut exister, oui. Il peut se souvenir qu'il y a tel ou tel mot qui ont été écrits et que voilà, qu'il peut faire la même chose lui. C'est ça ce que j'ai fait.
D'accord.
Quand j'ai lu ce livre, à l'époque en 93, j'étudiais la littérature française à l'université Mohamed V à Rabat. Je me suis dit, cette femme, c'est moi. Elle parle comme moi. Elle parle comme le monde de fou de mes sœurs. Elle parle comme avec l'envoûtement de ma mère et sa façon d'imposer encore et encore sa vérité et sa dictature à nous. Et je peux faire la même chose.
D'accord. Et vous estimez que c'est ce que vous avez fait avec, bien sûr, votre patte à vous, dans le roman Celui qui est digne d'être aimé, parce que je le répète, et peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont lu Allez savoir lettres portugaises, bien que le roman soit un petit peu rare, on va dire. Est-ce qu'on peut s'y retrouver dans Celui qui est digne d'être aimé quand on a lu lettres portugaises?
Mais en tout cas,
ça a déteint sur vous?
Oui, lettres portugaises est citée dans mon dernier roman. Et le héros, à un moment donné, donne ce roman à Vincent, l'homme français qu'il a abandonné, comme une clé de lui-même qui pourrait expliquer pourquoi donc Ahmed laisse tomber le personnage de Vincent. Mais vous savez, au-delà même de l'écrivain que je suis devenu, c'est un livre qui m'a changé moi en tant que personne. C'est-à-dire que c'est le seul livre que je peux dire que j'ai lu et qui m'a poussé au sens propre à entreprendre une forme de révolution autour de moi, alors que j'avais à peine 19 ans au Maroc à l'époque, et je me suis mis à écrire des lettres à tout le monde autour de moi. Alors, je n'avais même pas d'argent pour acheter ni les enveloppes ni les timbres. D'ailleurs, des fois, j'allais jusqu'à là où habitait la personne et je mettais la lettre dans la boîte aux lettres.
Vous faisiez facteur.
Je faisais le facteur aussi. Et parce que j'ai compris que, je ne sais pas comment on veut dire, il y a une forme de tragique dans la vie. C'est-à-dire que la vie est trop courte et que parfois, ce n'est même pas la peine de chercher le dialogue. Il faut juste chercher le moyen de dire sa vérité et que l'autre... la comprennent ou pas, là n'est pas le problème. Et que l'autre réponde ou pas, là n'est pas le problème. C'est juste d'avoir la conviction en soi et la possibilité de la conviction et le fait de le faire, qu'on se sente ni ridicule ni ayant le besoin d'avoir une quelconque bénédiction pour le faire. Donc je me suis mis, après avoir lu ce livre à l'âge de 19 ans, à écrire à tout le monde, à mon frère, à mes professeurs. J'ai même écrit à mon professeur de mathématiques au collège.
Mais là, vous étiez tombé amoureux.
Quand ?
De ce professeur, je me trompe ?
Oui. Ah, mais je tombais très régulièrement amoureux de mes professeurs au collège, au lycée. Et donc, effectivement, j'ai envoyé une lettre à un professeur de mathématiques que j'ai eu pendant 3 ans au collège. Et c'était un homme qui était merveilleusement hermétique, merveilleusement opaque, mais à travers cette opacité, il y avait quelque chose de tendre qui émanait de lui, notamment dans sa façon, de temps en temps, de passer ses mains, ses doigts dans vos cheveux, etc. Oh. Et je garde le souvenir de ses mains dans mes cheveux comme quelque chose... comme des moments de bonheur rares. Et je me suis dit, je ne peux pas vivre... Je ne peux pas aller jusqu'à la mort sans le dire à cet homme. Voilà qu'à l'âge de 13 ans, il m'avait donné beaucoup de bonheur, il faut qu'il le sache.
Concernant ces lettres portugaises, on a pu entendre parler de fragments d'auto-analyse psychologique inconsciente. Bon, ça fait un peu pompeux, je vous l'accorde. Pourtant, en matière d'auto-analyse, on pourrait s'en référer à vos romans, à vous. Des romans qui sont des miroirs tendus d'une part vers vous, mais aussi tendus vers nous. Est-ce que vous êtes d'accord ? Est-ce que c'est de l'ordre de cette révélation, cette auto-analyse psychologique inconsciente qu'il y a eu dans les lettres portugaises ? Vous n'opinez pas du chef.
Non, c'est-à-dire que je n'ai rien contre la psychanalyse, ni l'écriture psychanalytique ou machin, mais certainement, ce n'est certainement pas fait pour moi. Moi, ce que je cherche, c'est le mystère, c'est de dire quelque chose qui est brut, avec la force brute qui accompagne ce truc. C'est ça ce qui m'intéresse.
Chasser, croiser. Mathias de Gaël.
Alors sachez-le, cette émission est diffusée en partenariat avec Page des Libraires. Vous pouvez retrouver le dernier numéro de la revue Page chez votre libraire. Nous sommes en ligne avec Stanislas, qui est membre du réseau Page des Libraires. Nous sommes au téléphone avec la librairie Lamartine, Paris 16e et précisément au 118 rue de la Pompe. Bonjour Stanislas.
Bonjour.
Comment ça va sous le soleil parisien ?
Eh bien, pas mal. Je m'attendais un peu à ce que ça soit le grand désert, et en fait, on a pas mal de monde, donc c'est une excellente surprise.
Ah ouais, c'est ça. Je reviens à ce que je disais l'autre week-end. Il y a toujours une espèce de connivence entre la météo et la fréquentation des librairies. Et on se dit toujours, bah, s'il pleut, c'est peut-être un jour à aller chiner dans une librairie. Vous êtes à bord de ce numéro de Chasse et Croisée pour 2 choses. 1, nous donner le numéro 1 des ventes chez vous à la librairie Lamartine. Et puis 2, nous faire découvrir votre coup de cœur. On commence par le best-seller, Stanislas.
Alors, c'est une excellente surprise parce que, en fait, c'est un roman qui a failli passer au travers des mailles de filet, qui s'appelle donc Looping. C'est un premier roman d'une jeune femme qui s'appelle Alexa Strezzi aux éditions Stock. Et c'est un livre qui a failli passer au travers des mailles puisqu'il est sorti il y a quelques mois déjà. Et que c'est seulement maintenant qu'il prend effectivement toute son ampleur. Conjonction de coups de cœur un peu partout, presse, libraire, et relayé par le bouche-à-oreille des lecteurs, et qui en fait en ce moment, effectivement, notre meilleure vente. Et on est très très content parce qu'on a beaucoup aimé ce livre.
Vous avez l'histoire en tête, Stanislas ?
Oui, alors c'est l'histoire en fait d'une jeune femme, qui s'appelle, enfin, l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Noélie. On commence au début du XXe siècle, au sud de l'Italie. Et cette jeune fille est née d'une mère célibataire. Donc vous imaginez, l'Italie, début du XXe siècle, c'est un petit peu compliqué. Une famille très pauvre. Mais seulement la petite Noélie est absolument craquante. Donc tout le monde adore cette gamine. Et cette gamine va devenir une des femmes les plus importantes d'Italie. Et c'est le destin que nous raconte Alexa Strezzi, c'est un livre drôle, c'est un livre plein de vie qui vous emmène, qui vous fait traverser le siècle. Et en plus de ça, vous avez en fond tout un pan de l'histoire italienne que, bon, je vous avouerai absolument méconnaître. Et que j'ai été totalement passionné de découvrir dans ce petit livre Looping, qui est un petit bijou.
On parle de mise en scène concernant ce livre, et elle est toute cinématographique. Les séquences s'enchaînent vite, on prend une étonnante leçon d'histoire, et en même temps, on goûte à d'étonnants coups de théâtre. À présent, Stan, je vais vous demander votre coup de cœur.
Alors, le coup de cœur, c'est le formidable roman de monsieur... Philibert qui s'appelle donc quand les pardon.
Non, Louis-Philippe d'Alembert.
Oui, d'Alembert. Voilà. Donc c'est quand les ombres s'effacent. Excusez-moi, je m'embrouille. Et qui est c'est aux éditions Sabine Fespizer. Mmh. Et qui va vous raconter le formidable destin là encore de d'une famille, la famille Schwarzberg. On commence en Pologne, on est au début du XXe siècle, et on va suivre plus particulièrement dans cette famille Schwarzberg le petit Ruben qui va devenir médecin. Alors vous imaginez bien, la famille Schwarzberg, Pologne, début du XXe siècle, la grande histoire va pas tarder à frapper. Et c'est ce qu'elle fait. Mais ce qui va bouleverser la vie des Schwarzberg, et plus particulièrement de Ruben, c'est sa rencontre avec la communauté haïtienne.
C'est ça.
Et ce que nous raconte d'Alembert, c'est ça. C'est l'implication que là encore je ne connaissais pas du tout, d'Haïti pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le roman commence d'ailleurs par la très véridique et pourtant très loufoque déclaration de guerre du président haïtien en 1941, qui promet un bombardement à Berlin avec la flotte haïtienne. Ils ont 4 avions, on n'est même pas sûr qu'ils vont jusque Saint-Domingue. Et voilà. Et on part dans ce livre, et on se demande mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et alors c'est grande traversée, là encore, du XXe siècle, brillamment écrit, souvent drôle. C'est important de le dire, parce que, bon, on imagine avec la grande histoire, tout ça, c'est pas toujours... Mais c'est souvent drôle, c'est truculent. Là encore, plein de vie. Vous terminez le livre, d'abord vous le lisez d'une traite, et après, une fois que vous l'avez fini, le Louis-Philippe d'Alembert, vous avez envie de prendre un billet d'avion direction Haïti.
Ouais, c'est ça, parce que départ, en fait. Ce qu'il faut et savoir, donc, oui, pardon, Stanislas, juste une parenthèse, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 39, l'État haïtien vota un décret de loi de naturalisation in absentia, pour reprendre la terminologie, décret de loi qui autorisait ses consulats à délivrer des passeports et des sauf-conduits à des centaines de juifs, leur permettant ainsi d'échapper au nazisme et de se réfugier en Haïti.
Voilà, et c'est effectivement au travers d'une famille, du destin particulier d'une famille, que Louis-Philippe d'Alembert vous raconte cette histoire-là, et cette histoire-là qui se termine en boucle, puisque lors des graves événements qui vont secouer Haïti ces dernières années, la première force d'intervention sera la force israélienne, exactement, en remerciement de ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que au-delà de tout ça, ce qui est nourri énormément ce livre, c'est que c'est un livre qui est jubilatoire, le mot, c'est un adjectif un peu affreux, mais c'est ça, en fait. C'est-à-dire que vous finissez le livre, vous débordez d'énergie, vous avez envie d'embrasser votre voisin, enfin, c'est un petit bijou qu'on conseille très très chaleureusement avant que les ombres s'effacent de Louis-Philippe d'Alembert.
C'est ça. Et votre best-seller, je le rappelle, c'était Looping d'Alexia Stressi, paru chez Stock, et Avant que les ombres s'effacent de Louis-Philippe d'Alembert, est paru chez Sabine Vespizer. Je vous remercie pour votre intervention, Stanislas, et je vous souhaite excellent week-end. Au revoir.
De même, au revoir.
Chassez croisé sur France Inter. Chapitre 4.
Nous arrivons au quatrième et ultime chapitre de cette émission qu'on vous livre à domicile. Abdellah Taïa, pour ses vacances d'été, nous vous avons demandé un livre estival à lire sous le soleil à l'ombre d'un poirier. Et vous nous avez proposé un livre de Russell Bank, Continent à la dérive, paru chez Babel en 85. Explication.
En fait, ce livre vient d'être retraduit en français il y a à peu près un an, en septembre dernier, donc par les éditions Actes Sud. Et je suis tombé par hasard sur ce livre et le titre m'a tout de suite happé, Continent à la dérive. Je l'ai lu et c'est drôle parce que le monsieur, le libraire parlait de Haïti et dans ce livre, il est question aussi de Haïti.
Ouais.
Voilà, donc de deux. Et il laisse un livre totalement jubilatoire, totalement encore d'actualité parce qu'il est question d'immigration, de migration à travers le destin de deux personnages. Un Américain blanc qui va essayer de refaire sa vie avec sa famille à Miami et de l'autre côté, une Haïtienne qui sera obligée de fuir Haïti avec son petit garçon et son neveu. Et le roman est construit d'une manière magistrale. On a eu une fois la vie de l'Américain blanc. Et le chapitre qui suit, c'est la vie du personnage haïtien.
Ouais.
Et ce qui frappe, c'est comment le livre les pousse...
La convergence.
Les pousse l'un avec l'autre sans qu'ils ne se croisent à aucun moment. Ils finissent par se croiser quasiment à la toute fin. Et ça, d'ailleurs, ça se termine par une tragédie assez incroyable qui rappelle les malheurs que nous vivons, que nous côtoyons aujourd'hui dans la mer Méditerranée avec tous ces bateaux qui chavirent, etc., etc. Et donc voilà pour l'histoire. Mais évidemment, ce qui m'a le plus touché, et je pense même que ça va m'influencer dans ce que je vais écrire par la suite, c'est la langue. C'est le fait comment Russell Banks, quand il est question de des personnages, par exemple, haïtiens, il met dans sa façon de parler d'elle toutes les croyances des haïtiens, toute leur façon de vivre et tout ce en quoi ils croient. Notamment, il y a un moment, et je crois, ça m'a fait quasiment dresser les cheveux sur la tête, il y a un moment, il y a un chien, et il est là, dans une scène avec la femme haïtienne, et tout d'un coup, le chien, il se met à parler. Il guide le personnage haïtien, son garçon et son neveu. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à aucun moment, ça ne paraît incongru. À aucun moment, ça ne paraît forcé, tiré par les cheveux, justement. Et ça m'a, moi en tout cas, rappelé, ça m'a confirmé dans ce désir d'écrire un jour une histoire, pas une histoire d'intégrer. Parce que quand j'étais petit, on faisait parler les pierres. Et donc, on faisait parler les pierres. Donc, il y avait toujours autour de nous des gens qui disaient qu'ils savaient faire parler les pierres, qui faisaient faire bouger les pierres. Et ça fait partie de l'imaginaire que j'ai en moi. Et j'ai toujours envie, donc, d'un jour, d'intégrer un personnage qui serait une pierre qui parle.
Quand vous découvrez un auteur, est-ce que vous lisez tout de cet auteur ou c'est comme ça vous picorez ? Parce que je sais que Russell Banks est l'auteur de La recherche de la figure paternelle aussi. Et je me demandais si ça ce point de vue pouvait vous toucher, vous.
Non, en fait, pas du tout. À vrai dire, je n'avais rien lu de Russell Banks jusqu'à ce livre-là. Et je crois que je vais en lire évidemment d'autres. Je sais qu'il en a fait. Il a fait plein d'autres chefs-d'œuvre. Moi, sincèrement, c'est cette idée de l'errance et cette idée d'aller vers son destin et presque d'aller à la tragédie, les yeux. C'est-à-dire quand le destin, non seulement on a le destin contre soi, mais en plus on contribue, on l'aide ce destin contre soi à nous enfermer et à nous piétiner encore plus. C'est un livre qui est fait de voix, d'animaux, de sexualité, de désastres, fait d'une langue assez incroyable, et puis une croyance dans ce qui habite ce monde au-delà de ce qui limite nos vies.
Est-ce qu'il y a des analogies entre ce rêve américain que Russell Banks ne finit pas de tuer et la vision d'une certaine France enjolivée par les migrants qui rêvent de s'installer ici ?
Certainement. Mais ces migrants, quand ils viennent de la Syrie, quand ils viennent de la Libye ou quand ils viennent d'autres pays arabes ou africains, ils n'ont pas d'autre choix. Mais je crois qu'ils ne sont pas dupes par rapport à comment l'Occident va les accueillir. Et d'ailleurs, l'Occident ne se gêne certainement pas pour mal les accueillir.
Oui, mais en même temps, qu'est-ce que vous disiez, vous, par exemple, pour parler de vous, qu'est-ce que vous disiez à vos proches restés au Maroc lorsque vous vous étiez installé en France et que vous viviez une vie de bohème, est-ce que vous n'aviez pas tendance à enjoliver la situation, ne serait-ce que pour les rassurer, tout simplement.
À vrai dire, je n'enjolivais rien du tout, je ne les appelais pas. Et quand je gagnais 300 euros, j'envoyais 50 euros.
D'accord.
Quand je gagnais un peu plus, j'envoyais un peu plus, parce que la vie des migrants et des immigrés, donc comme moi, alors que évidemment moi je suis très très privilégié par rapport à ces migrants syriens par exemple, c'est une aide économique à ceux qui restent là-bas.
Vous écoutez France Inter, c'est Chassé Croisé. Babix, c'est que l'union des talents fait la force, et c'est avec Archie Chep qu'il concrétise l'axiome. Le saxophoniste américain lui prête main forte sur ce titre qui est une nouveauté. On écoute Babix et Archie Chep. Voici Omaya, un vrai coup de cœur de France Inter qui se retrouve en playlist. Il est 16h52, je vous souhaite une bien belle après-midi. À tout de suite.
Omaya s'endort sous les monts d'araignées. Omaya s'endort sous les monts d'araignées. Dans le vent brûlé, là où poussaient les roses, là où poussaient les roses. Omaya se repose. Maya s'endort sous le mont d'araignée. Maya s'endort sous les mandariniers, dans les vents brûlés. Elle seule sait que bientôt repousseront les roses, repousseront. Maya repose sous le mont d'araignée. Oh Maya repose sous le mont d'araignée, sans peur repose. Une tache au cœur comme une tache au cœur comme un bouton de rose, un bouton de rose.
Inter. Chassé croisé, Mathias de Gaël.
Nous allons terminer cette émission avec la dédicace Abdellah Taïa, puisque cette émission est un livre. Nous allons respecter les conventions qui font d'un livre ce qu'il est, à savoir autre chose qu'une cale pour buffet boiteux. Voici le temps venu de la dédicace, donc, avec une feuille de papier blanche que vous allez noircir avec ce feutre, Abdellah. Une dédicace suprême frustration que je ne vous lirai pas à l'antenne, mais que je vous réserve à vous, les fanas du clavier. Vous pourrez d'ici une grosse demi-heure lire la prose d'Abdellah sur la page de Chassé Croisé. Je vous laisse écrire, mais vous pouvez répondre à ma question pendant que vous écrivez aussi. Abdellah, j'ai lu dans le portrait que vous consacrez le quotidien Libération, que vous disiez « Alors même que j'ai endossé le rôle du bon petit arabe, qui plus est pédé, je reste aux yeux de certains un terroriste potentiel. » Je vous avoue que mes bras en sont tombés. C'est vrai ce que vous dites, vous avez...
Bah, c'est une question de regard, c'est-à-dire... C'est...
Bah oui, mais...
Je sais que depuis qu'Emmanuel Macron a été élu, on a l'impression qu'on a presque oublié tout ce qu'on entendait en France, et des horreurs racistes et tout ça, et que tout ça se reflète dans la façon, dans les regards de certaines personnes sur des gens comme moi, avec le physique que j'ai, arabe, africain et tout ça. Et il y a une corrélation. Voilà, il y a des, j'ai l'impression qu'il y a des répercussions immédiates. Et... je sais pas, c'est un peu triste.
Est-ce que sur cette antenne, au micro de France Inter, vous pouvez parler tout à fait librement du roi du Maroc?
Je crois que oui, a priori oui. D'ailleurs, il se passe beaucoup de choses pas bien en ce moment au Maroc, parce qu'il y a les gens des Rifs du Maroc, le nord du Maroc, qui se soulèvent pour demander la dignité, pour demander la répartition des richesses, des universités, du travail, tout ça. Et jusqu'à aujourd'hui, alors que ça fait depuis le mois de novembre qu'ils manifestent, le gouvernement, donc le pouvoir au Maroc, ne répond pas vraiment à à ces revendications. Il a même emprisonné certains des militants, et c'est quelque chose qui est très, 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 très dangereux.
Ok. Ce cinquième tome, merci Abdelataya, ce cinquième tome de Chasse et Croisée n'aurait pu avoir lieu sans mon bras droit Christine Kern, sans mon bras gauche Vera Lou Deride, sans mes trois bras du milieu, Romain Humbertèche, Thierry Dupin et Gilles Gaillard. Cet après-midi, à cela j'ajoute que, en plus de pouvoir lire la dédicace d'Abdella, vous pouvez consulter la page de Chasse et Croisée pour la musique et tous les livres qui ont été évoqués cet après-midi.